Un million d'hectares de terre seront bientôt semés et cultivés par l'Iran au Venezuela. Rappelons que les deux pays avaient annoncé avoir signé un accord de coopération stratégique de 20 ans dans tous les domaines, de l'énergie à la défense en passant par le tourisme. Par ailleurs, Hadi Beg-Nejad, haut responsable de la commission de l'énergie du Parlement iranien, a annoncé ce dimanche 7 août le début du raffinage extraterritorial avec le Venezuela. Comment analyser le renforcement des liens entre Téhéran et Caracas? Xavier Dupré, économiste et analyste politique, nous répond.
Cet accord stratégique particulièrement ambitieux, puisqu'il est un accord de très long terme, il porte sur 20 ans, montre clairement que l'influence des États-Unis aujourd'hui a quand même fortement diminué sur la scène internationale. Il y a plus ou moins 30 ans, lorsqu'un pays était sanctionné par les États-Unis, cela marquait de facto une certaine forme de marginalisation de cet État et parfois des problèmes économiques majeurs pouvaient survenir dans un cadre aussi clairement hégémonique de la part de Washington. Aujourd'hui, lorsqu'un pays est sanctionné par les États-Unis, la question n'est pas de savoir comment il va traverser un épisode de marginalisation ou d'isolement. La question qui va se poser à ce pays, et c'est ce qui se vérifie dans le cas du Venezuela, mais aussi de l'Iran, la question qui se pose à ce pays, c'est finalement comment arriver à trouver des accords intéressants avec les grandes puissances qui aujourd'hui ont décidé de faire front face à Washington. J'ai bien entendu, je parle évidemment bien entendu de la Chine et de la Russie. Donc si vous voulez, il y a déjà de fait une multipolarité qui permet à des États de faire valoir leur souveraineté sur le plan international sans devoir, en cas de sanction de Washington, prendre le risque, eh bien, de graves complications économiques. Évidemment, a fortiori, j'ai envie de dire, finalement, lorsque des puissances régionales de grande importance, comme l'Iran et le Venezuela, sont quelque part, eh bien oui, sanctionnées, j'irais même jusqu'à dire harcelées par les États-Unis, eh bien, il suffit qu'elles s'entendent entre elles et après au préalable, avoir conclu des partenariats stratégiques avec la Russie d'une part et la Chine d'autre part, et finalement ces pays tissent, si vous voulez, un réseau de non-alignement à l'égard de Washington, un réseau qui par ailleurs est complètement fonctionnel aujourd'hui, puisque on sait clairement que d'ici une dizaine d'années, le PIB nominal de la Chine sera supérieur à celui des États-Unis, donc il n'y aura plus aucune contestation à l'avenir. La première puissance économique mondiale, ce sera la Chine. Nous voyons aussi aujourd'hui qu'une fois qu'on a commencé à se rapprocher sur le plan militaire de la Russie, eh bien, un positionnement difficile, ou en tout cas d'affirmation de sa souveraineté face à Washington, est beaucoup moins compliqué. La guerre en Ukraine démontre clairement qu'il y a une puissance militaire russe et qu'il faut compter avec elle en Europe et par-delà l'Europe dans le monde. Et donc dans ces conditions, eh bien oui, des pays comme le Venezuela et l'Iran, Cuba également, ne sont plus aujourd'hui condamnés à devoir affronter dans une certaine forme de solitude leur désir d'indépendance et la volonté d'affirmer leur indépendance sur la scène internationale. Alors, d'un point de vue sectoriel, puisque je vous ai dressé ici le cadre global dans lequel ces accords trouvent leur sens, et le cadre multilatéral en devenir sur lequel ils prennent appui, eh bien, il y a aussi une réalité sectorielle, c'est que pour un pays comme l'Iran, une certaine forme de diversification de ses sources d'approvisionnement alimentaire, c'est toujours évidemment quelque chose d'intéressant. Et dans le cas du Venezuela, quelque part, le pays souffre d'une sous-exploitation de son secteur agricole. C'est un pays qui a beaucoup souffert de ce qu'on appelle la maladie hollandaise, et donc qui consiste à renforcer les importations, notamment dans le domaine alimentaire, à partir de la rente pétrolière. Donc, quelque part, pour un pays comme l'Iran, eh bien, le Venezuela, ce sont des milliers d'hectares de terres parfaitement arables qui ne sont pas exploitées. Donc, c'est une source d'alimentation très nette. Et pour Caracas, eh bien, cela crée un effet d'entraînement qui permet de mieux valoriser la filière de production, la filière de production alimentaire nationale. Et donc, cela renforce l'autonomie et la souveraineté alimentaire de ce pays. Donc, on est clairement sur un deal gagnant-gagnant. Et un deal qui finalement montre qu'aujourd'hui, être condamné, être sanctionné par les États-Unis, ce n'est plus un drame. Et c'est ce que démontre vraiment en profondeur cet accord. C'est qu'aujourd'hui, il y a de la place dans le monde pour des grandes puissances régionales comme l'Iran, comme le Venezuela, qui sait demain l'Argentine, peut-être le Nigeria en Afrique ou l'Afrique du Sud. C'est déjà sans doute le cas plus pour l'Afrique du Sud. Eh bien, tous ces pays peuvent demain s'affirmer comme grandes puissances régionales autonomes du réseau mondial de Washington, puisqu'il y a une possibilité de coopération entre ces puissances et même une possibilité de renforcement de leur position d'autonomie à partir de grands accords avec la Russie et la Chine. Donc vraiment, c'est un exemple finalement très intéressant. Il fera date, cet accord. Il est vraiment. Les livres d'histoire en parleront, puisqu'en réalité, c'est un des premiers accords, si vous voulez, post-hégémonie des États-Unis. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on ne conteste plus seulement d'un point de vue rhétorique et idéologique l'hégémonie des États-Unis, qui était évidemment à dénoncer à ce niveau-là d'intervention du politique. Il est possible de complètement contourner cette hégémonie et de se doter d'outils de souveraineté parfaitement efficients. Donc cet accord est quelque part exemplaire et historique de ce point de vue.